Alors, au Daf Mem Tet Amud Alef, ici à la Mishnah. Alors, c'est un nouveau dossier. On a bien vu qu'en matière de Nedarim, on suit le Lashon Bene Adam. On a déjà rencontré cette notion qu'on va revoir dans la Gemara plus explicitement. Mais c'est à ce titre que la Mishnah engage différents types de Leshonot avec leur signification et leur portée. Qu'est-ce que ça inclut et qu'est-ce que ça exclut en tant que Neder? Alors, voici un premier, un Noder Miname Vushal. Moutar bitzli ou bishalouk. Si quelqu'un il fait ce vœu de s'interdire ce qui est mevushal, ça ne comprend pas tzli, ce qui serait rôti, grillé au feu, ou shalouk, ce qui serait pas assez cuit. J'ai traduit d'après le Ran. Bien que d'habitude shalouk c'est bouilli et plus que cuit, là ça signifierait moins que d'habitude, cuit partiellement. C'est ça qu'on entend ici shalouk. Pourquoi ? Parce que le Ran laisse entendre que mevushal, ça se dirait parfaitement pour quelque chose qui est bouilli, qui est plus que cuit. C'est pourquoi si la Mishnah l'exclut du Neder, forcément il s'agit de chalouk au sens de cuit partiellement. Et donc il n'est pas encore au stade de mevushal pour l'inclure, donc il est exclu, ça reste permis. Ça c'est d'après le Ran. Donc ou bien ce qui est grillé au feu directement sans eau, c'est ce qu'on appelle tzli ou chalouk, son moutard. Amar konam tavshil, sheni toem. Tavshil, c'est pas ce qui a subi un procédé de bichoul nécessairement. Tavshil, ça veut dire une préparation alimentaire cuisinée. C'est ça qu'on entend quand on dit un tavshil. Tavshil, sheni toem. Je fais un vœu de ne pas goûter de tout ce qui rentre dans la définition de tavshil. Alors, il est assur bema sekdera. Il est assur dans tout ce qu'on prépare dans une marmite. Un maasek d'era qui est rare. Rare, ça veut dire qui est souple, il y a du liquide dedans. Mais il est moutard be'ave, il est autorisé à consommer un maasek d'era qui est compact. Ave épais, pas avec beaucoup de liquide, donc qui est compact. Ça reste moutard. Parce que, en réalité, il y a une définition qu'on n'a pas tout de suite saisie. La Gemara nous dira que à l'époque de ce Tana, on parlait de tavshil que pour mentionner quelque chose qui se mange avec du pain. Donc une préparation alimentaire cuisinée, mais qui accompagne le pain. Alors si j'ai fait un plat qui est épais, consistant, imaginons une purée de pommes de terre épaisse, ou bien une semoule épaisse, que ça ne se mange pas avec du pain, alors c'est plus tavshil, ça reste moutard. Par contre, si c'est rare, ça accompagnerait le pain aisément, alors ça rentre dans tavshil. Et là, pour le coup, tavshil, ça comprend aussi tzli et chalouk, comme on va le voir dans la Gemara. Et je comprends, parce que quand je dis mevushal, c'est ce qui a subi le procédé bichoul. Donc c'est restrictif, ça n'inclut pas tzli et chalouk. Par contre, quand on dit tavshil, ça veut dire un mécuisiné, comme on dit mécuisiné. C'est ça qu'on entend au sens large. Ça peut comprendre même d'autres façons de cuisiner, même tzli ou chalouk. Ensuite, la Mishnah continue. Ayant dit tavshil, alors on a dit que ça comprend maasek d'era, si c'est rare. Mais par contre, il est moutard bebetzat roumouta. Il peut manger l'œuf qui est roumouta. C'est un œuf qui a été traité d'une manière particulière. En bref, c'est qu'on a réussi à le faire mitztamek, c'est-à-dire il rétrécit, se resserre sur lui-même. À force de renouveler les opérations de cuisson, l'œuf qui se resserre comme l'œuf qu'on met des fois dans la dafina, pour ceux qui connaissent, il rétrécit un peu. Alors il y a moyen de le faire rétrécir, et c'est ce qu'on appelle betzat rumuta. Je comprends que comme cet œuf, il est trop compact, il est dense, il est trop dur, eh bien, on n'arrive pas à le manger avec du pain. Ça se mange comme ça, direct. C'est pourquoi ce n'est pas inclus dans tavshil. Ça reste moutard. Dala, tare moutsa. C'est une citrouille particulière. On en verra les précisions dans la Gemara. Et pourquoi elle n'est pas inclue dans tavshil. Anoder mi maasek d'era. Maintenant, s'il a dit, je fais le vœu de tout ce qui est maasek d'era. Et nasuri la mi maaser ratrata. Il n'est interdit que de ce qui se cuit, en français on dira bouillir, mais en fait, c'est-à-dire ce qui se cuit abondamment. Il y a toutes sortes de préparations qui se font avec des semoules, etc., qu'on avait l'habitude de cuire abondamment. Alors c'est ça qu'on entend quand on dit Maasé Gdera. Maintenant, si quelqu'un... nous, on ne peut pas trop ressentir chaque catégorie parce que dans notre langage parlé, il n'y a pas forcément cette subtilité. Mais le Tana tient compte de Lachon Bene Adam selon son lieu et son époque. C'est ce qu'il fait dire, toutes ces précisions, que chaque expression a sa connotation. Maasé Gdera se dit de quelque chose qui est cuit abondamment. Ensuite, Amar Konam Ayored Lakdera. S'il a dit je m'interdis par un vœu ce qui rentre dans une marmite, alors Shenitoem, que je ne goûterai pas. Sasur Bekol Amit Bashlin Bakdera. Alors tout ce qui peut être cuit dans une marmite, ce sera sourd. Pas forcément ratrata ce qui est cuit abondamment. Tout ce qui passe par la marmite est inclus. Ensuite, Gemara Tanya. Dans une braïta, concernant le premier point. Le premier point de la Mishnah, c'est Mevushal. Rabbi Yoshia Oser. Tiens, on a dit dans la Mishnah qu'on peut manger le tzli ou chalouk. Ça n'est pas inclus dans Mevushal. Et Rabbi Yoshia Echolek. Ve'a falpi shen raya la davar, zecher la davar. Bien que je n'en ai pas de preuve de la source que je vais citer, mais je n'en ai quand même une allusion. Il y a un zecher, ça veut dire comme une allusion. Chez Neymar, il est raconté dans Divrei Hayamim. Vaïva chelou à Pessar Baesh, ils ont cuit le Korban Pessar au feu, Kamishpat, comme la loi du Korban Pessar. Or, le Korban Pessar, c'est quoi sa loi? La Torah dit, c'est l'Iesh. Il doit être rôti au feu sans liquide. Donc, c'est pas un bichoul, c'est pas un mevouchal. Et quand même, on a dit le verbe, ils l'ont cuit. Donc, tu vois que le mot bichoul inclut tseli. C'est une manière de parler de Tzliya également dans ce contexte, c'est bien entendu. Et donc, à partir de là, dit Rabbi Yoshia, ça fait partie du Neder, contrairement à notre Mishnah. Demande la Gemara l'Emeabéaké Amiflegé, allons-nous dire que de ça discute le Tana de la Mishnah et Rabbi Yoshia? De Rabbi Yoshia, Savar Alechachar Lachon Torah, Vetana Dilan Savar, Bindarim Alechachar Lachon Bene Adam. Alors que d'après Rabbi Yoshia, on se réfère au langage tel qu'on entend dans la Torah. C'est là-bas où on voit les définitions pour après établir la portée d'un éder. Selon ce qui s'entend dans la Torah. Or, dans la Torah, Bishul, ça se dit même pour Tzli, donc ça comprend Tzli. Donc quelqu'un qui dit « Je suis Noder Mina Mevushal », eh bien le Tzli est interdit. Tandis que le Tana de la Mishnah, you know, dans les Nedarim, « Halech lash achar lashon bune Adam », il faut aller selon le langage des humains, c'est-à-dire leur façon de parler, c'est elle qui est déterminante. Puisque le neder, c'est selon le date de l'homme. Ce qu'il a bien voulu exprimer, et si tel terme a telle connotation, ça s'arrête là. Et donc le tzli n'est pas interdit. Dit l'agmaralo, non, ce n'est pas le point de divergence. Dekoul alma ben darim alechara lachon ben adam. Sur le principe, on est tous d'accord qu'on se réfère toujours à lachon ben adam. Sauf que le différent entre le Tana de la Mishnah Rabbi Yoshia, ça relève d'autre chose. Mar ki atre, ce Chacham se réfère comme son makom, ça veut dire, il regarde la manière locale, comment les gens parlent, et l'autre Chacham, il a regardé comment les gens parlent dans sa région. Ce qui fait que chacun a une autre conclusion, non pas parce qu'il y a un chilouk, une divergence de din. On regarde après tout le monde Lachon Bene Adam, sauf qu'un, il vit dans un pays où le Lachon Bene Adam, il est comme ceci, et l'autre, il vit dans une région où le Lachon Bene Adam était différent, c'est tout. Ça s'arrête là, c'est pas une vraie marloquette fondamentale. Alors maintenant, l'Agma a dit, donc des Tana Dilan, Letzli Karou Letzli, Velimvushal Karou Lemvushal, Beatré des Tana Dilan, dans l'endroit, la ville du Tana, de la Mishnah, le Tzli, s'appelait Tzli, et le Mevushal s'appelait Mevushal. Chacun une autre désignation. Tandis que Batra de Rabbi Yoshia fait le Tzli Karou Mevushal. Même le Tzli, on le nomme Mevushal. C'est pourquoi Mevushal inclut Tzli dans le vœu. Veha Kera Nasivla. Mais pourtant, Rabbi Yoshia, dans la Braïta, se revendique d'un pasouk. Il a dit, je n'ai pas de vraie preuve formelle d'un pasouk, mais je n'ai quand même une allusion. Donc il se réfère à un pasouk. C'est la Shon Torah. C'est pas la Shon Ben Adam. Comment tu dis non pour lui aussi, c'est Lachon Bene Adam la référence? Réponse: Asmarta Be'alma. Le pasouk, c'est une simple Asmarta. Ça veut dire quoi, Asmarta? C'est juste une sorte d'allusion pour appuyer ce qu'il dit. En fait, pour statuer, il faut voir la Shon Ben Adam. Mais si en plus tu trouves dans des psukim que ça corrobore, voilà, même dans Divrei Hayamim, c'est comme ça qu'on a parlé du Tzli, du Korban Pessah, dans le langage de Bishoul, avec ce Lachon, alors ça va ensemble. Alors, c'est pas seulement que c'est Lachon Ben Adam, c'est je trouve le Lachon Ben Adam, en allusion quelque part dans la Torah, c'est ça qui certainement est à l'origine du Lachon Ben Adam. Ou même si c'est pas vraiment que c'est ce qui était à l'origine du Lachon Ben Adam. Mais en tout cas, ça renforce, c'est une, comme une allusion. Mais c'est pas pour dire que parce que j'aurais trouvé une référence dans le Tanar, c'est ça qui déterminera. C'est pas le sens de la démarche de Rabbi Yehoshua. Finalement, tout le monde est d'accord que c'est Lachon Ben Adam qui prime. Maintenant, Konam Tavshil. Konam Tavshil, la Mishnah a dit que cette fois-ci, les Assur, de Masek Edera, j'ai précisé toutes sortes de Masek Edera. Peu importe le procédé de cuisson. Et qu'est-ce qu'on entend par Masek Edera ? C'est un plat cuisiné avec tantôt une consistance épaisse, c'est ce qu'on appelle ave, tantôt rare quand c'est souple. Qu'est-ce que ça change ? On a vu dans la Mishnah que ave, c'est moutard, et rare, c'est assur. Dit la Gemara, ave ami tavshil nadar. Mais pourtant, il a fait un neder d'un tavshil. Et un tavshil, c'est tout ce qui est cuisiné, mais cuisiné. Qu'est-ce que ça change que c'est ave ou rare ? Que la consistance de ce plat cuisiné, c'est épais par exemple un pudding léger, c'est rare. Et si c'est très compact, c'est ave. Une purée très épaisse, compacte, c'est ave, etc. Ou une semoule très... Qu'est-ce que ça change ? Tout s'appelle tafshil, a priori, mais cuisiné. Alors, Amar Abaye, Abaye nous donne la définition. Haïtana kol mide demitach el berifta tafshil karoulé. Pour ce tana, on constatera que tout ce qui se mange avec du pain, c'est ce qu'on appelle tafshil. Alors nous, à notre époque, que ça résonne comme ça dans nos oreilles ou non, peu importe, on l'a déjà dit, on va d'après la Shon Ben Adam. Et ça dépend d'une époque et d'un lieu donné. Le Tana, à son époque et dans son Makom, Tafshil désignait un uniquement des mets cuisinés qui accompagnent le pain. Et c'est pourquoi, dès que c'est avé et c'est compact, ça se mange seul. Alors ça se mange seul, c'est pas tafshil, c'est pas inclus dans le vœu. Pardon, et il conforte et confirme. Abaye confirme cette définition à l'aide d'une braïta, ve'atania. Anoder mina tafshil, asur bechol mine tafshil. Celui qui fait un vœu de pas manger un tafshil, alors il est asur avec toutes sortes de tafshil, ve'asur bitzli ou bechalouk ou vimvushal. Le procédé de cuisson, c'est indifférent. Alors que, comme on a vu plus haut aussi, il a fait un éder, je m'interdis, mais vous, Charles, c'est que ce qui a subi un procédé de bichoul. Bichoul, c'est dans une marmite avec de l'eau, t'as cuisiné quelque chose. Et là, non. Là, tavshil, ça veut dire préparation cuisinée, un mets cuisiné. Comment tu l'as cuisiné ? En le grillant au feu directement, sans eau et sans marmite. Ou bien en faisant chalouk. Que ce soit cuit partiellement ou bien bichoul mamash, l'un comme l'autre s'appelle tafshil, c'est pas le problème. Donc tafshil, tout est inclus. Et la braïta continue vers surbehit riot rakot shacholin ochlin ben pitan. Et également et riot rakot, que c'est rare. Et c'est quoi ? C'est une sorte de courge qui est rare, que les malades mangent avec du pain. Comme c'est encore rare, ça se mange avec du pain. Et donc, je ne connais pas exactement, mais si j'ai bien compris, la citrouille, si elle n'est pas assez cuite, ça ne se mange pas avec du pain, c'est trop dur. Et quand c'est rare, on l'a bien cuit, alors les cholines le mangent avec du pain pour le besoin qu'ils en ont. Mais peu importe, l'idée, c'est que comme ça se mange avec du pain, au moins pour les cholines, ça s'appelle tafshil. C'est pourquoi la braïta dit que ça inclut. Mais du coup, ça confirme la règle, ce que Abaye a cerné, qu'on appelle tafshil quelque chose qui se mange avec du pain. Ben, c'est ce qu'on retrouve ici dans la braïta. Puisque pourquoi on a inclus aussi itriot rakot? Parce que shacholin ochlin ben pitan. C'est ça la raison. Ça veut dire que c'est la définition de tafshil. Donc, selon l'époque et le lieu du Tana. Eni. Maintenant, la Gemara demande, je ne suis pas d'accord, va Rabbi Mia Khalash. Je ne suis pas d'accord de dire que les Dilouin, c'est bon pour les malades. C'est tout, la remarque, ce n'est pas une remarque sur l'explication d'Abayé. On ne revient pas sur l'explication d'Abayé, c'est bon. Mais, au passage, on a ressenti que les Dilouin, c'est top, c'est bon pour les malades. Et moi, je vois tout à fait le contraire, dit la Gemara. Parce que voilà une histoire, Rabbi Mia Khalash. Est tombé malade, Rabbi Mia. Halele Gabe Aouasia, Lea Souya. Il a souillé. Il y a un médecin, un docteur qui est venu pour le guérir. Chaza Akara de Machat Bevete, il a vu les courges entreposées dans sa maison. C'est-à-dire que chez lui, on mange des courges. Shavke, il a laissé tomber ce patient. Il a laissé tomber Rabbi Yirmiya. Venafak, Amar, il est ressorti en disant Malach Mota Itle Leden Bevete. Il a le Malach Amavet chez lui dans sa maison. Veana et Ulea Sayate, moi je vais aller le soigner. Ça veut dire, ce médecin, il a dit, j'ai aucune chance de pouvoir le guérir. Il mange des courges, mais c'est dangereux, c'est mauvais, etc. Alors pourquoi il ne tente même pas de le guérir, je ne sais pas, peut-être pour sa renommée. S'il aura échoué une fois, ce n'est pas top, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'expression qu'il a dit, peu importe l'idée. C'est qu'on voit au passage que les citrouilles, c'est pas bon pour les malades. Réponse, l'akashia. Ha berakiria berchouné. Ça dépendra, est-ce que c'est des citrouilles qui sont bien cuites et donc qui sont tendres, rakiré, ça c'est bon pour les malades. Et si c'est achouné, c'est caché, là c'est pas bon. Rabba baroula amar, ha bekara goufé, vea begavie, dekara. Kara, c'est en araméen, c'est dalaat. La citrouille, si tu prends la partie intérieure, le gavé, le tor, l'intérieur, c'est tendre, ça c'est bon. Mais karagoufé, c'est le corps principal de la citrouille, ça c'est du compact, c'est dur, etc. Ça c'est pas bon pour les malades. Donc les deux peuvent être vrais. L'un est bon pour les malades et l'autre n'est pas bon. Ça dépend quelle partie des deux. D'Amar Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda nous a enseigné l'Uliva d'Ikra Besilka. Le l'ouliva, je ne suis pas sûr, mais peut-être que c'est Milachon lève l'intérieur de la citrouille. Ça se mange avec silka, des blettes. Et l'ouliva des kitna, ça se mange avec koutra, une sorte de moutarde, la graine de moutarde. Et c'est quoi l'ouliva des kitna? C'est le lin, hein? Il a des graines. Et si je ne suis pas sûr si c'est l'intérieur de la graine, un truc de ce genre, il faut voir. Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Et qu'est-ce qu'on entend dans ça? Ben, on entend que la citrouille, il faut savoir viser le meilleur. La partie intérieure, c'est elle qui est bonne. Donc si on a dit que c'est bon pour les malades, ils le mangent avec du pain, et de l'autre, on voit un docteur qui dit non, c'est mauvais, et ben voilà, le compromis, ça peut être le suivant, que ça dépend quelle partie intérieure ou le corps principal de la citrouille. Et Rav Yehuda, quand il a dit cette petite phrase, il a dit « Védavarze asur l'omro bifne amaretz ». C'est asur de transmettre ça au amaretz. Pourquoi? Ah, pourtant, ce n'est pas des sodotes de Torah qu'il a enseigné ici. C'est juste une leçon de vie de savoir que c'est top, c'est très bien, c'est bon pour la santé. Alors déjà, c'est très bien de le manger comme ça, ceci associé à cela, du l'uliva d'ikra avec du silka, c'est très bien de les associer et c'est de bonne nourriture. Quoi? Ça ne veut pas dire que c'est bon. On n'est pas là dans une leçon de gastronomie. Ça veut dire que c'est yafé l'échol. C'est bon dans le sens de briout. D'accord? Donc si c'est ça que le chacham est en train d'enseigner, pourquoi ne faudrait pas partager ça avec le amaretz? Et est-ce que sur d'autres enseignements... Alors ici, il y a différentes explications. Une des raisons, le Rashi nous dit parce que le amaretz, il va en manger beaucoup. Quoi? Les graines de lin, il va faire il va surexploiter. Enfin, ça va causer du gaspillage. Parce que si on veut que le cœur, prendre le cœur, eh ben, c'est gaspiller beaucoup de lin. Il va en manquer pour le textile. Si j'ai bien compris, ce serait ça l'explication d'après Rashi. Le ran, c'est pas tout à fait la même chose. Il dit pour pas que le amaretz, il soit au caire le pishtan juste pour ça. Ça pourrait rejoindre, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a une telle explication, c'est que Le Chacham, s'il sait qu'il en a besoin pour sa santé, il va le prendre une fois de temps en temps. Ok. Le Hamaretz, comme il sait que c'est très bon, il va en abuser, même quand il n'en a pas vraiment besoin. Et après, il manquera du lin pour le textile. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas livrer ce secret au Hamaretz. D'autres explications ici dans les Rishonim. D'après Tosfot, on ne partage pas ça au Hamaretz parce qu'ils vont s'en moquer en disant que dans notre chasse, on a intégré mille et des chouravitloula, des paroles de rigolade. C'est la rigolade à leurs yeux. C'est ça, oui, la sagesse, qu'est-ce qu'il y a tellement. Ça a une place, ça, dans la Gemara, dans le chasse. Alors, pour nous, ce n'est pas de la rigolade. Parce que si nous, on est les Amoraïm, et qu'on veille à la santé, et on sait pourquoi on a besoin de la santé, parce que ça donne un rendement de Torah quand quelqu'un il veille à sa santé. Comme il a dit le Chafetz Chaim, si quelqu'un y préserve trois choses, sa santé, son argent et son temps, il pourra accomplir toute la Torah Kula. Et s'il gaspille l'un des trois, ou a fortiori les trois, il ne pourra pas accomplir les mitzvot. Et d'accord, et encore moins apprendre la Torah. Donc les Chachamim, c'est pas étonnant qu'ils s'arrêtaient sur ce genre de choses, qui ne sont pas des considérations tellement spirituelles, mais indirectement, oui, ça touche à leur niveau de Avodat Hashem, qui devait être avec un rendement comme on ne peut pas s'imaginer. Il devait avoir une santé, etc. Donc s'il y a un secret comme ça qui peut intéresser des Chachamim, même si aux yeux des Amarets, ça a peu d'intérêt au point qu'à leurs yeux, ça n'a pas de place dans le chasse, pour nous, ça a une place, mais on n'a pas à leur partager ça, parce qu'ils ne vont pas le voir d'un bon œil. Ensuite, c'est une explication, il y a encore d'autres explications. Rabba Amar, Man Cholin Rabbanan. Quand on a dit que les cholines mangeaient de la dalaat avec du pain, et donc c'est ce qui fait que ces itriot rakot qui sont de dalaat raka, ça se mange avec du pain, c'est pas des vrais malades, c'est les rabbanan. Les cholines mentionnées, c'est rabbanan, deux points. Maï choline, qui sont ces cholines? Ce sont rabbanan. Pourquoi les rabbanan sont assimilés à des malades? Rava les tamé, Rava y va selon sa méthode, ça veut dire son approche. Et à Marava, on connaît un autre enseignement de Rava. Keman matzlinan al ktsire valmerie. Ça, c'est un passage en Gemara Rosh Hashanah, dans le sujet de Din. C'est quand le jugement de l'homme. Alors, il y en a qui disent c'est Rosh Hashanah, etc. Et il y a Rabbi aussi qui dit chaque jour, l'homme est jugé. Alors, Rava nous dit comme qui nous prions pour les ktsire et merie. On prie pour la réfoua de Ktsiré Mérié. Et donc, qui sont les Ktsiré? Ce sont les malades, littéralement. Qui sont les Méréim? Ce sont les Chachamim, qui sont un peu comme malades. Pourquoi alors les Mefarchim disent? Parce que les Chachamim n'ont pas le temps de prendre soin de leur nourriture et de leur santé. Ils sont toujours très, très, très dépensés dans la Torah. Ils mettent toutes leurs forces. Oskim batora venam neeni mina olam. Profite pas de ce monde à hauteur des besoins. Et donc, baim lide choli. Ils en viennent à choli. Souvent et couramment, les chachamim sont malades par ce fait-là. Et donc, quand on a dit dans la braïta, enfin non, dans l'enseignement plus haut, la braïta disait choli nochrin baen pitan, c'est en fait les chachamim. Alors, si j'ai bien compris, ils ne sont pas malades au sens ktiré du terme. Ktiré, c'est un vrai malade. Eux, ils sont dans un état d'affaiblissement ou des maladies peut-être légères, quelque chose comme ça. Ça peut arriver couramment ou presque en permanence parce qu'ils ne prennent pas soin de leur personne suffisamment, etc. Mais pour autant, on n'a pas dit qu'un cholé peut manger de la dalat. Un vrai cholé n'en mangera pas, comme on a vu avec le médecin. Et ça, c'est la troisième manière de concilier qu'il n'y ait pas de contradiction entre la braïta et ce qu'on a ramené d'un médecin, etc. Donc, trois manières de concilier, enfin de surmonter la contradiction. Et Keman, que Rabbi Yossi disait, Rava. Parce que Rabbi Yossi pense que l'homme est jugé chaque jour. Et quand l'homme est jugé chaque jour, ben, ça donne des chances. Si un homme il est malade aujourd'hui, eh ben, on n'est pas forcément après le Gmardin. C'est vrai qu'à Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est derrière nous. Si je dis que le din il est unique pour toute l'année, c'est pas évident de vouloir maintenant modifier le jugement. Oh, faut voir là-bas dans la Gemara si quand même il y a des chances. C'est encore un sujet à voir là-bas. Mais pour Rabbi aussi, c'est plus facile. pour Rabbi aussi, bien sûr qu'il y a des chances, chaque jour on est jugé. Donc chaque jour on est avant le verdict, donc chaque jour on a sa chance, et donc on peut prier pour des malades tout au long de l'année. Et donc quand Rava il a dit ça, Midéamark, Tziré, Omerie, comme il a dit les deux termes, pourquoi il a dit deux termes? Shma Mina, Tziré, qui sont-ils? Tziré Mamash, c'est les malades littéralement, et Mérie, et ce sont les Chachamim, qui prennent pas soin suffisamment de leur santé. Voilà, c'est pourquoi on les qualifie aussi globalement de Mereim comme Cholim. Point. Moutar Beave. On a dit que si quelqu'un il a dit je fais un vœu de tout ce qui est Mevusha, Tafshil, alors il aura le droit de manger une semoule, un plat cuisiné, mais qui est Ave, c'est épais. Et parce que épais et compact, ça ne se mange pas avec du pain. C'est ce qu'on a entendu, Abaye nous l'a expliqué. Matnitin de loke bavlay. Notre Mishnah ne va pas comme les. N'est pas conforme aux habitudes de Bavel. D'Amar Rabizera, Rabizera dit Bavla et Tipcha'e de Achle Lachma Belachma. Rabizera, une fois, il a dit cette phrase. Les gens de Bavel, c'est de la Tipchou de leur part que de manger du pain avec du pain. Parce que manger le couscous avec du pain, imagine. De la semoule avec du pain. Alors, c'est comme quelqu'un aujourd'hui va manger un plat de pâtes et du pain avec. C'est d'accord? Bon, c'était le sentiment de Rabbi Zera. Pourquoi il a dit ça, faut voir. Mais en tout cas, ça montre que Bavel et Eretz Israël avaient des habitudes différentes. Et le Tana de notre Mishnah, c'est pourquoi lui, il dit que le Maase Ave n'est pas inclus parce que ça ne se mange pas avec du pain. Mais à Bavel, même un Tafshil Ave de semoule, ça se mangeait avec du pain. Donc, ce sera inclus dans le vœu. C'est comme si la Gemara nous dit il y aura des ajustements selon les appellations locales de chaque endroit, puisqu'on va d'après la Shon Bené Adam. Et le Tana a tenu compte de son époque et de son lieu. Mais à Bavel, puisque ça se mange avec du pain, même quand c'est Ave. Donc si ça a une consistance compacte, et donc ça s'appellera un Tafshil. Ça rentre dans Tafshil, c'est pourquoi, hein, pour nous, ce sera Assour. Amara Prisda. Ika de Mashil Lehon, je vous lis d'après la version de Tosfot. Y a-t-il quelqu'un qui ira demander les halin nakedame des hutsal à ces spécialistes de hutsal qui savent très bien comment on prépare la nourriture, etc. Haden daisa echin maale le michla. Cette daisa, cette semoule, comment c'est bien, c'est la meilleure, comment c'est le mieux de la manger? Est-ce qu'on doit la manger d'echite, belachma d'echite? Quand c'est une semoule de blé, alors c'est mieux de la manger avec un pain de blé. Vedesare, belachma, desare, quand c'est une semoule d'orge, de l'orge concassée par exemple, c'est mieux de le manger avec un pain d'orge. Odilma, dechite, bedesare, vedesare, bedechite. Ou plutôt, c'est mieux de croiser et d'associer un pain avec une semoule de deux natures différentes. Chitim et sorim, ça se marie mieux ensemble, ou bien vaut mieux rester sur une même espèce. Alors, c'est-à-dire qu'il était curieux de savoir. Il a dit s'il y avait quelqu'un qui pouvait aller interroger les spécialistes de leur époque, je ne sais pas pourquoi, Nagdané, des Houtzal, bref, des gens qui s'y connaissaient. Et ça montre que Rav Prisda, qui est lui de Bavel, lui aussi mangeait comme ça. Le pain et la semoule, ça allait ensemble. Et donc, c'était l'habitude locale. Et voilà, on montre qu'il s'y intéressait de savoir quelle est la meilleure manière. Très bien. Rava Achle Bechassise, Rava lui mangeait. Le pain, avec Rassissé, c'est une semoule de quoi? D'un blé qui a été grillé au four. Quand on fait griller l'épi de blé, alors le blé devient sucré. Et la farine qu'on obtient, c'est aussi une farine sucrée. Et donc, lui, le pain, il l'associe avec une daïssa de cette nature-là qu'on appelle Rassissé. Rabba Baravuna, Ashkerel Ravuna, Dekahil Daisa Betzbate. Rabba Baravuna, il a remarqué que Ravuna mangeait la Daisa avec le doigt. Il n'y avait pas de cuillère. Ou qu'il n'y avait pas de cuillère, ou que c'est comme ça. Il choisissait de manger comme ça. Marley lui a dit Amaïka Achil Marbeyade, pourquoi tu manges avec la main? Amarle Achil Marab, ainsi a dit Rav, Daisa Betzbata Basim. Le daïsa, quand tu le manges avec le doigt, c'est meilleur. C'est mieux agrémenté par le fait de le manger avec le doigt. Vekol deken betarten, vekol deken bitlat. Et kol sheken, à plus forte raison, avec deux doigts ou trois doigts. Qu'est-ce que ça fait de le manger avec la main ou avec un doigt ou deux doigts? Alors, il y en a qui disent que la sensation du palper contribue à l'appréciation qu'on aura de la nourriture. C'est pas juste le sens gustatif, c'est aussi le sens du toucher qui contribue. Et donc, on se sent mieux rassasié grâce à ça. Je dis pas rassasié au sens physique du terme, mais certainement au sens moral du terme, je crois. Je crois. Amar le Rav le Chia Berei. Rav a dit à Chia son fils. Vren amar le Ravuna le Rabba Berei. Ainsi Ravuna disait à son fils rabbin. Mes amnim lecha le Michal Daisa ad Parsa. Si on t'invite pour manger de la Daisa, de la semoule, un couscous, quelque chose comme, jusqu'à une Parsa, ça vaut la peine de marcher. Et si c'est le Michal Bisra de Toura, si on t'invite pour manger de la viande de bœuf, ad Tlata Parsin. Jusqu'à 3 parsas. Une parsa, c'est 4 milles. 1 mille, c'est 2 milles amotes. Donc, une parsa, c'est à peu près 4 kilomètres, un peu moins. Donc, vas-y, marche 12 kilomètres pour ne pas décliner une telle invitation. Ça vaut la peine. C'est une image. Peu importe, c'est pas pour dire fais ça. Hein. C'est pour dire que ça vaut beaucoup plus la peine de manger ceci que cela. Ou bien une autre traduction. Tu manges de la daïsa, ça te tient le temps de marcher une parsa. Tu manges Bisra de Toura, ça te tient le triple. Ça te donne des forces pour encore bien plus longtemps. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, Amar le Rav, le Chia. Et tout ça, c'est quoi? C'est comme je l'ai déjà dit, et c'est pas la première fois, on voit que la préoccupation des Chachamim, quand ils parlent ici de performance, c'est pas pour faire un marathon. C'est pour toujours mieux étudier. C'est évident que c'est la considération qu'ils avaient instinctivement dans leur esprit. Amar le Rav le Chia Berei. Rav dit à son fils Chia. Vechen amar le Ravuna le Rabba Berei. Kol mid'am lo tiflot kamei Rabbach. Toute chose ne recrache pas devant ton maître. C'est-à-dire que Rashi nous ramène ici une Gemara qui dit que celui qui aura craché devant son maître, Chayav Mita. Parce que Kol mesan ay avu mavet. C'est un pasouk. Or, celui qui manque de respect au Chachamim, c'est la même chose. C'est comme s'il est sonné Hachem. Voilà. Et donc, il ne faut surtout pas. Mais là, justement, on te dit toute chose que tu as envie de cracher, ne crache pas devant ton Rav. Les bar min karav et daïsa. À l'exception de ces deux aliments, shendomin liptil tachel ever. Ça ressemble à la mèche de plomb. Ça nous rappelle quoi, la mèche de plomb qu'on faisait fondre pour administrer à une personne dans le cadre de Chiyuv, Mita de Chenek, pas Chenek, la Mita de Srefa. Comment on faisait Mita de Srefa? C'est pas qu'on met la personne dans le feu, le corps il reste tel quel, mais de l'intérieur on le brûle. Comment on le brûle de l'intérieur? Avec du plomb fondu. Bon, c'est une image pour dire que c'est tellement insupportable, ça tu as le droit de cracher, parce que c'est mauvais pour la santé. Oh, comment tellement mauvais que ça peut faire un ravage? Comme ce plomb fondu. C'est quoi exactement Karav et Daïsa? Mais pourtant, ça se mange. Et on ne nous a pas dit que c'est interdit de les manger. Et c'est pour ça, certainement, que les Rishonim ont compris qu'il s'agit de la salive qui remonte après qu'on a mangé ce genre de nourriture. Cette salive que tu as et qui vient à la bouche, une fois que tu as mangé tel ou tel plat, tu peux l'avaler. Ou des fois, il faut la cracher, mais ce n'est pas mortel si tu l'avales. Mais celle de Karav et Daïsa, c'est tellement mauvais de l'avaler, de la réintégrer, qu'il faut en urgence la cracher. Alors, à Filou, tu peux la cracher même devant ton maître. Va à Filou, Kamé Shavur Malka Plot. Et tu peux la recracher même devant le roi Shavur Malka, qui était connu à l'époque de Samoraïm. Point. Rabbi Yossi et Rabbi Yuda, Chad Achil Daïsa Metzbaate, Chad Achil Beotza. Tous deux mangeaient le Daïsa dans l'assiette commune. L'un avec le doigt et l'autre avec otsa, c'est une petite tige végétale. Je ne sais pas exactement, là dans le ran, il nous dit klipat etz. Faut voir. Ok, disons, comment on dit là, les petites baguettes des Chinois, quelque chose comme, peu importe. Alors, chacun avait une remarque sur l'autre. Amar le deachil be otsa, le deachil be etzbaate. Comme on n'a pas défini qui, de quelle manière, alors on parle de manière indéfini. Celui qui mangeait Berotza, il a dit à celui qui mangeait avec les doigts, Admatay atamachilenitsoatra, jusqu'à quand tu vas me faire manger la saleté qu'il y a, entre parenthèses, ici cette soa, c'est la saleté qu'il peut y avoir entre l'ongle et la chair. Si tu manges avec le doigt, mais attends, des fois il y a un peu de saleté, et alors c'est pas très hygiénique, et moi je dois manger après toi, jusqu'à quand je vais devoir supporter ça? Sous-entendu, fais comme moi, mange avec l'autre, c'est tellement mieux, c'est plus hygiénique. Et l'autre qui lui répond, Amarle de achil betzba, tele de achil beotza, celui qui mange avec le doigt, il dit à l'autre qui mange avec le otza, admatay atamachileni rokra, et jusqu'à quand tu me fais manger, ingurgiter ta salive? Parce que quand tu mets cette tige dans la bouche, cette cuillère en bois, qui n'était pas une vraie cuillère, tu as une tige de bois rudimentaire, qui n'était pas usinée, bien fabriquée, uniforme, etc. Donc quand tu pioches une première fois, tu mets en bouche, et tu remets dans l'assiette. Et donc il y a de la salive dessus, qui finit dans le plat. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a un désagrément. Donc, faut choisir. Ok, chacun avait une sensibilité différente. Un était plus sensible à ceci, l'autre plus sensible à cela. Mais à cette époque, Caniron ne mangeait pas avec la cuillère. Et il mangeait dans une assiette commune. C'était courant. Et donc chacun sa sensibilité. Maintenant, pourquoi lorsqu'il mange avec le doigt, il n'y a pas de salive? Il y a le problème de tsoa, la saleté qui entre les ongles. Mais il n'y aurait pas le problème de salive, puisqu'il lui a dit, il y a ça qui me dérange. Et l'autre lui dit, non, mais toi, il y a ça qui me dérange. Chacun, chaque méthode, éviter le problème de l'autre. Pourquoi avec une tige, tu mets en bouche, il y a la salive? Alors, certains disent parce que ça, tu le mets dans la bouche, comme une cuillère, tu rentres ça dans la bouche. Donc, tu ressors avec la salive et tu le plantes dans le plat. Mais le doigt, tu ne rentres pas le doigt dans la bouche. Juste tu mets sur les lèvres, je ne sais pas comment, mais tu n'en renfonces pas le doigt dans la bouche. Donc, il n'y a pas le problème de salive. Et pourquoi la tige, on ne pouvait pas la laver? Pourquoi il y a un problème de salive? Alors, certains disent parce que ce n'est pas comme une cuillère qui est bien lisse et bien formée, que c'est facile d'essuyer sur un mouchoir avant de la replanter. C'est quelque chose qui est en bois rudimentaire et donc c'est pas lisse, tu peux pas le nettoyer bien. Donc il y a un peu de. Tu es obligé de manger tout le repas avec et à la fin tu le jettes. Voilà. Ensuite, Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, Aïtou le Kamayou, Blous Fiyan. On a présenté à ces deux Tanaïm cette nourriture-là. C'est une sorte de figues qui sont dures. Dures à difficiles à digérer. Alors, Rabbi Yehuda achal, Rabbi Shimon lo achal. Amar le Rabbi Yehuda maitama lo achil mar. Pourquoi le Rav ne veut pas manger? Amar le Rabbi Shimon, elu en yotzin mi bnei ma'im. Cela, ils ne ressortent pas des intestins colicards du tout. C'est-à-dire, c'est très long à digérer et à évacuer. Donc, je ne veux pas m'encombrer pour longtemps. Amar le Rabbi Yehuda, kol sheken shnismoch ala le machar. Encore mieux, à plus forte raison que faut les manger. Parce que voilà, on peut compter dessus pour demain. Ça veut dire, si ça prend du temps à être évacué, c'est que ça peut nous entretenir plus longtemps qu'une autre nourriture. Si une nourriture se digère vite, bon, alors c'est bénéfique pour peu de temps, en termes d'énergie et de nutriments et tout ça. Mais si ça met longtemps à digérer, c'est que c'est plus, c'est appelle ça des sucres lents, je ne sais pas comment on va appeler ça. Ça, on pourra compter dessus même pour demain. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de remanger demain. C'est gagné. Au contraire. On va voir plus tard que Rabbi Yehuda était pauvre. C'est possible qu'à ce titre, il fait ce genre de réflexion. Tiens, c'est encore mieux si ça peut nous tenir plus longtemps. Ensuite. Rabbi Yehuda vayativ kamed Rabbi Tarfon. Il était assis auprès de son maître, Rabbi Tarfon. Amar le Rabbi Tarfon. Ayom, panechat seuvim. Aujourd'hui, je vois ton visage, il est radieux et rayonnant. Il a un beau teint. C'est ça, Tsaov. Tsaov, c'est Milachon. Je crois que c'est ça. Ça veut dire rayonnant. Amarle, donc comment se fait-il? Amarle lui dit, Emesh yatsu avadech alasade. Tes serviteurs sont descendus dans le champ. Veillez-vous, la nuit nous ont ramené à nous les Talmidim. Taradin. Taradin, c'est un légume, je crois que c'est les poires. Non, les blettes. Non, tradine, pas les blettes, je ne sais plus, tradine, disons, un légume, des poireaux, quelque chose comme. Vachalno, belo melach, on les a mangés. Oui, je crois que c'est le poireau en araméen, je crois. On les a mangés sans sel, Veimachalnum bamelach, on les aurait mangés avec du sel. Kol sheken shayu panenu tzeuvim. Alors encore mieux, notre visage aurait été davantage rayonnant. C'est quoi le sujet ? C'est qu'il s'est justifié en disant, voilà, on a mangé une nourriture saine, et c'est pourquoi on a une bonne mine aujourd'hui. Et c'est ton mérite parce que tes serviteurs nous ont servi cette bonne nourriture. Voilà comment il a répondu. Amra hi matronita, l'histoire, en fait, il y a trois histoires qui se suivent sur un même sujet. Il y a une femme khashuba de l'époque, souvent c'était les gens des Romains, puisque l'État Naïm était en Eretz Israël sous souveraineté romaine. Donc une femme khashuva de l'époque, certainement une Goya, une Romaine, l'a dit à Rabbi Yehuda, « More verave, te more ora'a », ça veut dire « tu sièges au Beddin, tu tranches, tu fais des jugements, ou bien tu es more de ora'ot, et en même temps t'es rave ».« Rave », ça veut dire « t'as bien bu ». Ça veut dire qu'il avait un visage, comme un peu avec un teint, de quelqu'un qui a bu du vin. Et elle a été surprise comment le grand maître des Juifs, il est moré au Ra'a et sous emprise du vin. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est une halakha que c'est assourd d'être moré au Ra'a dès que tu as bu un revit yaïn. Amarla, il lui a répondu « Imnuta biyada de haïteta ». C'est un langage de shvoua qu'il jure sur l'honneur de cette femme-là que « Ita imna ila kidush » que si je goûte du vin, du tout, si ce n'est quoi, « Ela kidusha ve avdalta varba kased episra ». Le seul vin que je goûte toute l'année, c'est le vin du Kiddush, de l'Avdala, et des Arba Kosot, du soir de Pessah. Et même quand je bois ce vin du Seder de Pessah, ça me fait mal, je crois, tzidé au temple, de Pessah jusqu'à Shavuot. Et je me force, donc ce n'est pas du tout du plaisir pour moi. Donc ne me soupçonne pas d'être sous emprise du vin. Ah, alors pourquoi j'ai cette mine d'un visage qui est avec du thym, etc. Et la chokhma t'adam tahir panav. C'est la chokhma d'un homme qui éclaire et qui illumine son visage. C'est ma sagesse de Torah que je suis certainement connecté à la Torah en permanence, à un très haut niveau, et c'est ce qui fait que ça reflète sur mon visage sous forme de rayonnement et de thym, et aussi de visage qui est détendu ou qui est joyeux, etc., etc. Et donc voilà, lui a répondu, c'est pas l'effet du vin. Tu crois que t'as en face quelqu'un qui est réjoui par le vin, qui a le visage un peu rougeâtre comme ça? Non, non, c'est par la chokhma de la Torah. Pourquoi il n'a pas donné cette réponse à Rabbi Tarfon? Comme ça, des Mefarshim demandent. Certains disent que c'est par Anava devant son maître. Il n'allait pas dire à Rabbi Tarfon, je suis tellement porté par la Torah que mon visage rayonne de chokhma. Ça, tu dis pas à Rabbi Tarfon, oui? Mais à cette matronita, il pouvait dire la vérité. À son maître, il a répondu avec un ava, c'est les bons plats que tes serviteurs nous ramènent ici à la yeshiva, et grâce à ça, on a comme ça une bonne mine. Amarle, aout zedoukil Rabbi Yehuda. Troisième histoire, toujours en rapport. Un sadducéen a dit Rabbi Yehuda, panechadomin, ik malverimit, ik megadle chazirin. Ton visage ressemble à quelqu'un qui prête de l'argent beribit. C'est-à-dire qu'il gagne de l'argent facile, sans se fatiguer. Ou comme les mégales, les chazirim, ceux qui font l'élevage des porcs, qui aussi s'enrichissent facilement. Et donc, ils ont la vie paisible, ils ont bonne mine, etc. Puisque je vois que tu as un visage rayonnant, amarle. Il lui répond, biyudae tarvayu aseran. Chez nous, les juifs, ces deux choses-là sont formellement interdites. On ne peut pas prêter beribit, et on ne peut pas non plus faire des élevages de porcs. Et là, esrim verba beta kiseit limin betad bemidrecha. Seulement, la raison, c'est parce que de chez moi au beta midrash, il y a 24 beta kise. Ve kol sha ve sha. À tout moment, si j'ai besoin, aninirnas le kol echad ve echad. Je ne crois pas que ça veut dire qu'il y va à chaque. Mais ça veut dire qu'à chaque occasion qu'il peut avoir besoin, c'est pas comme d'autres situations où il faut attendre de trouver où il y a un beta kise. On ne connaît pas ça de nos jours, mais à l'époque, quelqu'un avait besoin de se soulager, il devait des fois attendre de trouver l'endroit adapté où le bêta qui sait qui est aménagé, il fallait marcher ou attendre de trouver sur son chemin, etc. Et ce n'est pas bon pour la santé. Le Rambam insiste beaucoup sur ce sujet, que de surtout pas retenir, et que là, c'est ce qu'on dit, qu'il avait toutes sortes d'occasions pour se soulager, et c'est ce qui a entretenu une santé au point que son visage en rayonne. Ça veut dire que si quelqu'un il a un visage qui rayonne, il me semble que ça veut dire, a priori, il a une bonne santé. A priori. C'est pas seulement il a une bonne santé physique, mais aussi morale, etc. C'est un homme qui est bien, bien entier. Et si la digestion est un facteur prédominant, tel que c'est présenté dans le Rambam, dans une Chodéot de mes souvenirs, et certains diront que ça s'entend dans cette histoire de la Gemara. Que Rabbi Dan a justifié ainsi son apparence d'un homme qui est radieux, qui est paisible, qui a la vie facile, alors qu'il est vertué dans la Torah avec toutes ses forces, comme au niveau d'un Tana, etc. C'est parce qu'il avait justement entretenu cette santé grâce à cette exigence de veiller à avoir une digestion qui est souple, comme ça dit le Rambam, et qu'on arrive à faire le nécessaire en temps. Voilà, ça rejoint un petit peu, d'après certains, la première réponse, celle qu'il avait donnée à Rabbi Tarfon. Certains y voient un lien parce que, je crois que c'est le Rif dans le En Yaakov qui dit que le Rambam donne une sorte de recette aussi avec des tradines et du sel et de l'huile et je sais pas quoi, que si on prend ça, c'est laxatif, ça donne une digestion plutôt souple. Et ce qui est très important d'avoir une digestion souple et pas trop. Et donc ça ferait le lien entre la réponse qu'il a donnée à son maître et celle qu'il a donnée au Tzduki. Que dans les deux cas, ça veut dire j'entretiens ma santé correctement ou j'ai l'occasion d'avoir une santé cette façon, voilà, surtout autour de la digestion. Rabuda kad azil lebe midrasha. Quand Rabuda il allait au Bet Midrash, shakil gulfa al kitfe. Il portait un can-can, un fût, pas en bois, je crois que gulfa c'est en terre cuite, et il était vide apparemment, sur l'épaule. Amar il disait que dola melacha shemechabedet et balea. La melacha c'est grand, ça fait honneur à celui qui l'a fait. Je me fatigue à transporter ce can-can, mais ça me fera honneur finalement. Parce qu'au Bet HaMidrash, toute la journée, au lieu de m'asseoir au sol, je pourrais m'asseoir dessus. Comme ça, certains rishonim m'expliquent. Rabbi Shimon shakil tsana al kitfe. Et Rabbi Shimon lui transportait une corbeille sur l'épaule et il disait Gdola melacha shemchamedet et balea. Alors, quelle est la melacha ici? Plus haut, la melacha, c'est quoi? C'est de transporter le can-can ou de le fabriquer, je ne sais pas. Et ici aussi, transporter une corbeille, est-ce que ça a un poids pour appeler ça une melacha? Ou plutôt de la fabriquer? Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas encore creusé, il faut voir. Dvitu de Rabbi Yuda, la femme de Rabbi Yuda, nafkat, naktat amra. Elle est sortie et elle a mis la main sur de la laine, c'est-à-dire qu'elle a acheté de la laine. Ils étaient pauvres, on va le comprendre. Avda glima de houtve. Elle a fait une sorte de manteau qui est chashuv. Houtve, c'est un type de manteau qui est chashuv. Kad nafkat le shuka. Et quand elle sortait, elle, dans la rue, mirseyabe, c'est elle qui se couvrait avec ce manteau. Ve kad nafik rabbi Yehuda le tsalouye. Et quand Rabbi Yehuda allait à la tfila, hava mirse ou matzle. C'est lui qui portait ce manteau et il priait avec. Parce qu'ils étaient pauvres, n'avaient pas de quoi acheter deux. Même un manteau, ils n'ont pas acheté. Ils ont acheté que de la laine, et c'est elle qui l'a confectionné. Et il n'y en avait qu'un pour les deux, et donc chacun, au moment où il avait besoin, le prenait. Et est-ce qu'il y a un problème de l'oïl bâche, qu'on ne doit pas porter les habits d'une femme? Alors ça, c'est surtout interdit lorsque tu vas chercher à paraître sous l'apparence d'une femme, pour te mêler aux femmes, pour aller du côté des femmes. C'est ça, en bref, c'est ça le issour essentiellement. Mais si ce n'est pas le but, tu le fais parce qu'il fait froid, tu as le droit de mettre l'habit d'une femme. Tu es en Russie, il fait très froid, il n'y a rien d'autre. Tu mets même le manteau d'une femme, ce n'est pas un problème. À part ça, les méfarchim me disent que ce manteau, il était mixte. Et comme c'était mixte, il n'y a pas le problème de l'otilbash. Il y a différentes explications pourquoi il n'y a pas le problème. Et là, Rabbi Yehuda, il le met au moment de la tefila, pour le kavod de Hachem, parce que quand tu te tiens à la tefila, il faut être bien habillé, etc. Alors tu rajoutes ce manteau. Ok. mais il ne le fait pas pour paraître comme une femme vis-à-vis d'un public féminin, etc. Ce n'est pas pour se rapprocher des femmes, donc ce n'est pas du tout le issour de l'otilbash. Comment c'est marqué ? Lo yilbash gever keli isha. Un homme ne portera pas des habits de femme. Ensuite, on peut aussi peut-être penser que le issour, c'est seulement... Ça, il faut voir de plus près. Est-ce qu'un seul habit, mais on est bien identifié comme un homme, ça reste permis ? Et que c'est assour seulement si je mets tous les habits d'une femme, c'est-à-dire je me suis déguisé en femme. Ça aussi, c'est un point à vérifier, je ne me rappelle plus exactement. Passons donc, il faisait comme ça par manque de moyens. Les kadmir sebe avam et varer, barur shatani me'il. Et quand il portait ce manteau, il faisait la bracha, barur shatani me'il, que Hachem m'a recouvert de ce me'il, tellement c'était précieux à ses yeux. Ouais, comme ça, il dira, Loran, c'était précieux à ses yeux. Et certains disent pourquoi ? Parce qu'il n'avait que ça. Et il n'y en avait qu'un, mais ça, justement, parce qu'il n'y avait que ça, mais au moins il y avait ça, c'était précieux, et donc il faisait une bracha. Zimnachada, Gazar Rabban Shimon et Gamliel Ta'anita. Alors une fois, c'était un jour que le Nassir Rabban Gamliel avait décrété un jeûne. Donc tout le monde est appelé au rassemblement pour des prières, c'était ça un jeûne. Rabuda Loata, le Ta'anita. Et Rabuda n'est pas venu pour assister à cette organisation du Ta'anit. Amrine lo itle qui souillait. Ils ont dit à Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabuda ne vient pas parce qu'il n'a pas de quoi se couvrir. Il n'a pas son manteau. Peut-être que ça, ce moment-là, c'est sa femme qui le portait. Il ne l'avait pas, je ne sais pas exactement. Il faut voir. Mais en tout cas, ou peut-être, certains disent, ah, c'était gênant pour lui de venir avec ce manteau, qui est le seul manteau que des fois on voyait sa femme avec. Lui vient maintenant dans l'assemblée des Chachamim, il va paraître comme ça, c'était gênant. Bref, il ne pouvait pas venir. Ok, donc c'est pourquoi il n'est pas venu. Shadar le glima. Rabban Gamliel, c'est le Nassi. Certainement, il était riche. Il lui a fait envoyer un manteau. Velo Kabil, il n'a pas voulu recevoir. Dalet Sifta, il a soulevé la natte, une natte sur laquelle il était assis au sol. Il a soulevé. Donc on voit que c'est un pauvre. Même chez lui, il n'est pas assis sur une chaise. Ve Amarle, il a dit, O Shaliach, l'Ishlucha, Chazé Maïka. Regarde ce qu'il y a en dessous. Les Rishonim disent, il y a eu ici un Maasé Nissim, qu'il y avait des pièces d'or. Et il lui a dit, voilà, tu vois, j'ai besoin de rien. Tu n'as pas besoin de me donner un manteau, j'ai besoin de rien. Cependant, moi, je ne veux pas profiter dans ce monde. Je veux pas profiter, je veux profiter le minimum. Et c'est pourquoi je refuse ce cadeau. C'est gentil de la part du Nassi. Mais va lui dire en d'autres termes, parce qu'on est bien, d'accord que le Shaliach, envoyé par Rabban Shimon ben Gamliel, il va venir faire un rapport à Rabban Shimon ben Gamliel. Alors où il est Rabbi Yehuda ? Il n'est pas venu. Tu lui as amené le manteau ? Eh ben, il a décliné et il veut pas. Pourquoi ? C'est pas kavod de refuser le cadeau du Nassi. Quand un dame gadol, il t'envoie un cadeau, c'est un honneur pour toi, donc tout de suite, tu ferais bien de le recevoir, de l'accepter. Alors, pour se justifier, Rabbi Yehuda, il a dit, moi, je suis voilà, dans cette chita de rien profiter de ce monde. J'ai la richesse, c'est-à-dire du ciel, on peut me donner, regardez les pièces d'or, sans... je ne veux pas toucher. Est-ce qu'il y avait vraiment des pièces d'or ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je ressens dans certains rishonim, il y a eu un Nes qui lui a montré qu'il y avait, ou comme s'il y avait, et c'est-à-dire, si j'avais besoin, t'en fais pas, Hachem me donne, j'ai sous la main ce que je veux, si je veux. Mais je ne veux pas profiter, c'est pour ça que je reste dans cette précarité, c'est pourquoi il a décliné l'offre. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et Chazak ou Baruch. Chazak.